dans les clés médias, on fait un bond de 15 ans en arrière aujourd'hui, direction New York. Le 14 mai 2011, les journalistes font le pied de grue devant le Sofitel à New York. DSK y aurait agressé sexuellement une femme de chambre, Nafissatou Diallo. Ce sont les deux protagonistes principaux d'une affaire au retentissement international où le décalage de notoriété, de maîtrise du langage face aux médias, d'argent aussi, vont précipiter la fin du dossier et l'abandon des poursuites. La presse était-elle prête en 2011 à traiter cette affaire comme il l'aurait fallu? Où est-ce que ça a dérapé? Quels enseignements en tirer aujourd'hui? Est-ce une sorte de MeToo manqué, cette affaire DSK? C'est le thème de cet épisode des Clés Médias. On est ravis de vous recevoir. On commence par un petit retour sur la chronologie des événements.
Les Clés Médias, Marie Van Kitzen.
14 mai 2011. Devant le Sofitel à New York, les journalistes arrivent en fin de journée, installent leurs caméras, tentent de croiser des responsables de la sécurité ou des personnes qui travaillent dans l'hôtel. Il faut glaner des infos sur ce qu'il s'est passé quelques heures auparavant. Dans la suite, 2806.
C'est donc ici que tout s'est passé, à cet hôtel Sofitel de la 44e rue à New York, au 28e étage, la suite 2806. Et c'est là qu'une jeune femme se présente, une femme de ménage âgée de 32 ans. Samedi, peu après midi, elle frappe à la porte, pas de réponse. Elle rentre et ensuite se produit ou se serait produit les faits qui sont reprochés à Dominique Strauss-Kahn.
Vers 16h, Nafissatou Diallo, la femme de chambre, est reçue dans un hôpital new-yorkais pour des analyses médico-légales. Elle a des contusions, une douleur à l'épaule, elle présente des traces d'agression sexuelle.
C'est une employée modèle depuis 3 ans, tant par la qualité de son travail que par son comportement. C'est donc une accusatrice crédible aux yeux des policiers new-yorkais.
À 16h40, Dominique Strauss-Kahn est arrêté par la police new-yorkaise à l'aéroport JFK, à bord de l'avion qui allait le ramener en France. L'affaire est prise très au sérieux par la justice américaine. Il n'y a pas de possibilité de libération sous caution et très rapidement, une procédure pénale est engagée contre DSK. C'est le procureur Cyrus Vance qui est à la manœuvre. 7 chefs d'accusation sont prononcés, dont ceux d'agression sexuelle, tentative de viol et séquestration. DSK est envoyé dans la foulée à Rikers Island, l'île prison de Manhattan. Dans les médias français, c'est le choc.
Sidération, le mot n'est pas trop fort à propos des images de Dominique Strauss-Kahn.
La France s'est réveillée ce matin en découvrant des images du patron du FMI menotté.
Choc, un séisme, ce sont les mots qui résonnent le plus depuis quelques heures, depuis que Dominique Strauss-Kahn a été inculpé.
Les images sont fortes, elles évoquent les films américains. DSK mal rasé, regard noir, main derrière le dos et menotté, encadré par des policiers jusqu'à la voiture qui l'emmène. Ce sont des images de ce que l'on appelle la « perp walk », la marche du suspect. Une tradition de la justice pénale américaine, mais perçue en France comme une mise en scène excessive, voire, avec les jours qui passent, comme une forme d'acharnement.
Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais.
Et une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire. Un troussage.
Il appelait ça une erreur de jugement.
Qu'il y ait un troussage... de domestique, ben, je veux dire, ce qui est pas bien, mais...
Il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn.
Il faut dire qu'en mai 2011, DSK n'est rien de moins que l'avenir de la France. Haut dans les sondages, il est plus que probablement le futur président à 1 an des élections. Il est aussi le patron du Fonds monétaire international, bref, c'est l'un des hommes les plus puissants de la planète. Après quelques jours à Rikers Island, les avocats de DSK obtiennent qu'il soit placé en résidence surveillée avec un bracelet électronique.
Dominique Strauss-Kahn a changé de lieu de résidence. Ce mercredi soir, il s'est installé dans un logement situé à Tribeca, un quartier du sud-ouest de Manhattan.
L'ancien directeur du Fonds monétaire international réside désormais dans 7 hôtels particuliers. 630 mètres carrés, 4 chambres, 5 salles de bain, 1 salle de sport, une résidence listée à près de 14 millions de dollars à la vente et qui serait louée 50 000 dollars par mois, c'est-à-dire 35 000 euros.
S'ensuit un été où il faut, pour les médias, obtenir la moindre information possible. Les journalistes se relaient devant la résidence surveillée, observent les allées-venues, essayent d'interroger les gens. Et il s'agit aussi d'en savoir plus sur Nafissatou Diallo, cette femme de 32 ans, originaire de Guinée et sur le sol américain depuis quelques années. Le doute à son sujet s'installe lorsque le New York Times publie une conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec un ami. Elle aurait dit
« Cet homme a beaucoup d'argent, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. »
Mais les traductions du dialecte guinéen dans lequel il s'exprime, proposées par la défense de DSK à l'époque et transmises aux journaux, posent aujourd'hui sérieusement question. On découvre aussi qu'elle a menti sur les raisons de son immigration aux États-Unis. Et soudain, le doute surgit sur sa crédibilité. La thèse du complot s'emballe également. Et si toute cette affaire était fausse, pilotée depuis Paris pour faire chuter DSK? Et si Nafissatou Diallo était partie prenante d'une machination, ou si elle avait été instrumentalisée? À la fin de l'été 2011, le procureur Cyrus Vance abandonne toutes les charges contre DSK, qui rentre libre en France. L'affaire est réglée au civil, Nafissatou Diallo reçoit $1 million, et DSK, invité sur TF1 dans la foulée, répond aux questions de Claire Chazal.
Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment, je l'ai regretté tous ces jours. Au long de ces 4 mois, et je crois que je n'ai pas fini de la regretter.
Comment comprendre ce qu'il s'est passé et le retournement de l'opinion et de la justice américaine cet été-là? Les médias ont-ils fait le travail correctement? Y a-t-il eu une forme de racisme ou du sexisme dans le traitement de cette affaire? On profite de cette émission pour explorer ces questions avec notre invité. Bonjour Marine Pradel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste freelance, correspondante d'Arte à Washington. On vous réveille, hein. Il est tôt là chez vous ce matin, 6h30,
ouais.
C'est ça? Merci 6h30, d'être avec ouais. nous. En 2011, vous étiez à New York, vous avez couvert l'affaire tout l'été pour les médias francophones européens, notamment la RTBF et RTL TVI. Avec votre collègue Anne-Cécile Jean, vous vous êtes replongée dans vos enregistrements de l'époque pour réaliser un podcast. Il est sorti en 2023, il est intitulé « Shame on you » et il revient sur toute l'affaire et son traitement médiatique. Pourquoi avoir fait ce podcast? Ça vous laissait un goût d'inachevé, cette affaire?
Oui, après l'affaire, quelques temps après, on est partis chacune de notre côté, ma collègue Anne-Cécile Jean et moi. Moi, je suis partie m'installer au Moyen-Orient, elle est restée à New York, et à chaque fois qu'on se reparlait, on se retrouvait à chaque fois à reparler de l'affaire. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été vraiment terminé, qui n'avait pas été fait comme ça aurait dû. Et en fait, c'est quelques années plus tard, c'est quand il y a eu l'affaire MeToo et l'affaire Harvey Weinstein à New York, où en voyant les images, ça nous est revenu un peu comme un boomerang parce que tout était similaire, en fait, le décor était le même, c'était la cour criminelle de Manhattan et les personnages étaient le même procureur, Cyrus Vance, les avocats des deux côtés étaient les mêmes, Ben Braffman qui était le premier avocat du producteur américain Harvey Weinstein, en face on avait Douglas Wigdor qui était un des deux avocats de Nafissatou Diallo, les assistants du procureur étaient les mêmes, donc on avait vraiment toute cette espèce de galerie de personnages, ce décor qui était les mêmes et qui nous sont revenus, sauf que évidemment on le sait, le résultat de l'affaire Weinstein n'a pas du tout été le même que celui de l'affaire DSK, et du coup ça nous est revenu encore plus fort en se demandant mais qu'est-ce qui fait que 6 ans plus tard le résultat a été celui-là, celui d'une condamnation d'Harvey Weinstein, une condamnation très lourde en plus, et que 6 ans plus tôt avec Dominique Strauss-Kahn tout simplement il y a eu un refus d'obstacle, en fait il n'y a juste pas eu de procès. Et puis ça nous intéressait aussi parce que quand on reparlait de l'affaire autour de nous, on se rendait compte en tout cas qu'en France il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que Dominique Strauss-Kahn avait été blanchi et qu'il avait été d'une certaine façon exonéré, alors qu'en fait il n'y avait tout simplement pas eu de procès, en fait. Et donc on a décidé, effectivement on a demandé à la société de production pour laquelle on travaillait à l'époque, Keeping News, on leur a demandé de nous envoyer tous les rushs qu'on avait tournés. Il y en avait énormément et on s'est plongé là-dedans en essayant d'aller creuser dans justement ce qui n'avait pas fini dans les journaux télévisés, qu'on appelle le gras, un peu dans les rushs. Parfois, on tournait pendant des heures au cas où il se passait quelque chose, notamment devant la maison de Dominique Strauss-Kahn à Tribeca. Et puis, du coup, on capte des conversations entre les journalistes qui, en fait, pendant que la caméra tourne, parlent de l'affaire, etc. Et en fait, dans tout ce gras-là, on s'est rendu compte que se disait beaucoup de la façon dont on traitait ce genre d'affaires à l'époque, de la mentalité, pas seulement des journalistes, mais de nous tous, en fait, de la société, sur les questions d'affaires de violences sexuelles.
Alors votre envie, c'était aussi de relire tout ce qui a entouré et semé le doute sur Nafissatou Diallo pendant cet été-là. On va y revenir, bien entendu. Avant ça, je voudrais vous refaire écouter sa prise de parole en juillet 2011. Donc, elle est avec ses avocats dans une église de Brooklyn. C'est la première fois qu'on la voit s'exprimer devant un parterre de journalistes. On écoute.
To tell everybody how much I'm going through for those past 2 months.
Je suis ici aujourd'hui pour dire à tout le monde comme c'était dur tout ce que j'ai vécu pendant ces derniers mois.
I'm going through a lot.
J'ai traversé des moments très durs.
My daughter.
Avec ma fille.
We're going through a lot.
On vit des moments très durs.
La première, les clés médias.
Ça, c'est un extrait que vous reprenez dans le podcast. Ce moment, ça va précipiter quelque part le discrédit de Nafissatou Diallo. Elle n'a pas les codes, en fait, devant les médias. Et c'est comme si le fossé qui la séparait de DSK était encore plus visible. Comment c'est traité à ce moment-là par les médias ?
Moi, je me souviens très bien d'être dans cette salle. C'est une église, c'est ce qu'on appelle une méga church ici. Donc, c'est des églises qui ressemblent pas du tout à nos églises à nous, qui sont vraiment, on dirait une salle de spectacle. En fait, c'est gigantesque. Et puis, d'un coup, elle est poussée sur scène. Elle est entourée de gens qui sont tous là aussi pour promouvoir leur propre agenda personnel. Donc, il y a des hommes politiques derrière elle. Tout le monde est un peu là pour soigner sa propre image en la poussant sur scène, alors qu'évidemment, ça se voit tout de suite. Moi, je me souviens de la filme quand elle sort de l'ascenseur et qu'elle marche jusque sur la scène et elle est absolument terrorisée. On la voit, elle se tord les doigts dans tous les sens. On voit que même je fais des gros plans sur ses doigts, le sang circule plus dans ses mains tellement elle se tord les doigts et tout le monde est très déçu en fait, parce qu'on est des centaines, ça fait des semaines qu'on est tous en train d'essayer de trouver des éléments sur elle, etc. On a tous écumé le bronze dans tous les sens pour essayer de trouver des infos sans jamais la voir, quoi, sans jamais qu'il y ait de prise de parole. Et donc là, la machine à fantasmes a marché à plein et puis et tout le monde est très déçu parce qu'on est face à une femme qui n'était pas destinée à se retrouver à devoir prendre la parole devant des centaines de journalistes qui maîtrisent mal l'anglais. Donc il y a toujours la question évidemment qu'on se pose rétrospectivement 15 ans plus tard en se disant est-ce que c'est normal qu'on ait exigé d'une victime de viol présumé, toujours présumé, mais d'être crédible en racontant un viol dans une langue qui n'est pas la sienne. Mmh. Et donc évidemment on lui impose à ce moment-là nos normes et nos codes de communication sans qu'à aucun moment ça pose problème à qui que ce soit, et non seulement face aux journalistes, mais auprès de la justice américaine aussi. Il y a des gros problèmes sur l'accès à un traducteur en dialecte peul pour assurer une traduction digne de ce nom à cette femme qui effectivement vit un cauchemar à ce moment-là.
L'opinion publique, on le sent bien, alors elle vacille au sujet de Nafissatou Diallo cet été-là. On a évoqué dans l'introduction la conversation téléphonique avec un ami, là aussi des questions de traduction. Il y a aussi des éléments sur son dossier à l'immigration qui seraient faux. Et alors c'est assez étonnant parce qu'on ne remet pas vraiment en cause l'agression du Sofitel, mais c'est comme si ces nouveaux éléments sur sa crédibilité générale venaient en fait tout mettre à terre.
Exactement, et en fait on le sait aujourd'hui, parce qu'avec toutes les affaires MeToo, toutes les affaires qu'il y a eu après, on sait aujourd'hui qu'il y a disons quelque chose, une espèce de marche à suivre de la bonne victime, même si ce terme est affreux, mais en gros si vous faites ceci, ceci, cela, a priori vous allez pouvoir avoir droit à la justice, donc notamment le fait de tout de suite raconter ce qui s'est passé, déposer plainte immédiatement, pouvoir faire le rape kit, donc les examens médicaux, médicaux légaux, qui permettent de constater un viol. Et ça, en fait, c'est extrêmement rare. On le sait, il y a des victimes qui sont en état de sidération, qui mettent un certain temps avant de réaliser ce qui s'est passé, qui mettent un certain temps avant de porter plainte. Et des preuves ADN, comme c'est le cas dans l'affaire DSK, qui sont récoltées une grosse heure après les faits. Donc ça, c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, on le sait, dans le traitement des affaires de violences sexuelles. Et malgré tout, ça n'empêche pas que lorsque des éléments de doute arrive sur tout à fait autre chose que les faits, la conclusion logique est que c'est une personne qui n'est pas digne de se voir rendre la justice. C'est un peu qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est-à-dire qui ment sur ses papiers d'immigration
être en train de mentir sur cette affaire-là aussi.
Quand bien même les preuves des faits sont écrasantes. Et ça, personne ne le nie. C'est-à-dire que nous, on a rencontré il y a quelques mois le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, qui revenait pour la toute première fois sur cette affaire depuis 15 ans, et il ne nie pas les preuves matérielles sur cette affaire.
À l'été 2011, vous faites partie des journalistes sur place que l'on envoie à la recherche de la moindre information, et vous dites dans le podcast que vous avez même vu un journaliste fouiller dans les poubelles de DSK à sa résidence surveillée. Vous êtes posé des questions sur la couverture de l'affaire à ce moment-là ?
Oui, on s'est posé des questions. En fait, il y avait une forme de fébrilité cet été-là, c'est-à-dire que cette espèce d'excitation. Nous, avec Anne-Cécile, c'était notre premier job de journaliste. On était jeunes, mais on voit en fait arriver de Paris, de Bruxelles, un peu les stars du métier, quoi. On voit débarquer des Léa Drucker, des Maryse Burgot, des gens qu'on voit à la télé en fait, et qui viennent, et donc il y a cette espèce d'atmosphère-là, un peu tout le monde est un peu en compétition pour sortir les infos les uns après les autres, tout le monde est au même endroit, donc il y a une espèce d'atmosphère d'excitation un peu malsaine et de fébrilité qui honnêtement empêche de se poser les vraies questions. Les vraies questions, elles sont arrivées plus tard.
On s'est aussi demandé ici à la RTBF comment on avait couvert l'affaire à l'époque avec l'influence française que l'on sait sur notre paysage médiatique. Mmh. On va écouter cela, c'est une séquence signée Sarah Pousset.
C'est donc un dimanche, jour d'équipe réduite à la RTBF, que l'affaire DSK débute. Le journaliste François Mazure sera envoyé à New York dans les jours suivants pour couvrir l'affaire, mais en ce 15 mai, c'est à ses correspondants que fait appel l'éditeur du journal télévisé. À Washington d'abord, avec Philippe Gasso qui interviendra depuis le siège du FMI, mais aussi à Paris où se trouve Pierre Marlet.
Où va-t-on à Paris ? Baf. Au siège du Parti Socialiste, et on essaie d'avoir quelques infos, c'est très difficile, c'est silence radio. Et de quoi parle-t-on ? Tout le monde parle du fait que Dominique Strauss-Kahn est candidat à la présidentielle, qu'il est même le candidat favori du Parti Socialiste. Tout le monde s'attend à un match Sarkozy-Strauss-Kahn pour mai 2012.
Et ça, c'est vraiment l'angle que vont adopter la plupart des rédactions francophones, et donc aussi celle de la RTBF. On voit cette affaire surtout comme politique, un véritable retournement dans la course à l'élection présidentielle française.
Tout le monde veut savoir ce que le Parti Socialiste va décider. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn reste le candidat du Parti Socialiste dans ces circonstances ? Est-ce que le Parti Socialiste va décider de quelque chose ? C'est d'abord cet angle-là qui est mis en avant. Et puis très vite, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que cette affaire a un fondement ? Est-ce que vraiment Dominique Strauss-Kahn a porté atteinte à cette femme ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque politique pour le décrédibiliser aux yeux de l'opinion ?
À l'époque, Dominique Strauss-Kahn est une personnalité très appréciée des Français. Cette affaire est une surprise, alors dans les reportages tournés au lendemain de son arrestation, la thèse complotiste va émerger dans les réactions du public qui attend des preuves, tout comme la première secrétaire du Parti Socialiste de l'époque, Martine Aubry.
J'en appelle à chacun à attendre la réalité des faits, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous, à garder la décence nécessaire.
Tout le monde sait que c'est un coureur, mais à faire des choses pareilles, non. Non. Moi, je reste persuadé que c'est un coup monté.
Au sein même des rédactions, et donc ici aussi à la RTBF, la véracité de cette affaire fait débat, comme s'en rappelle Pierre Marlet.
Je me souviens qu'il y en a qui disent « Mais non, cette histoire, c'est pas possible, on veut se faire des escarres. » Beaucoup voient la main de Sarkozy. D'autres se disent qu'on ne tient pas assez compte de la parole des femmes, qui est là une femme qui a été exploitée sexuellement. Et puis, à partir du moment où il y a l'enregistrement aussi d'un fils à tout dialogue avec son frère qui dit « Je vais me faire beaucoup de fric », tout varie très vite, en fait. Donc je crois qu'on oscille beaucoup, on hésite sur la bonne analyse à donner à cette affaire.
Alors avec 15 ans de distance, est-ce que la couverture médiatique de la RTBF a été pertinente sur le sujet ? Pierre Marlet dresse un bilan nuancé.
La grille d'analyse principale, elle était d'abord politique. On ne s'est pas trop trompé, il y avait la question principale, c'était Dominique Strauss-Kahn peut-il, après cette affaire, être président de la République ? Et il me semble que très vite, la réponse a été ben non. Même s'il est innocent, le mal est fait. Pour autant, la considération, la couverture de la relation homme-femme, on est toujours le produit d'une culture, le produit d'un contexte. Et je pense effectivement que certains mots, certaines manières d'entendre les choses, de les voir, on ne les dirait plus de la même façon. Mais c'est vrai que quand Jack Lang dit « il n'y a pas mort d'homme », bah, moi ça me choque à l'époque. Donc il y a quand même des expressions qui sont utilisées qui ne sont pas partagées par l'ensemble de l'opinion publique.
L'ancien correspondant à Paris se rappelle l'arrestation de DSK comme l'une des plus grandes surprises de sa carrière. un séisme dans les rédactions. Aujourd'hui, alors que les affaires de violences sexuelles se sont multipliées dans les médias, cette stupéfaction n'aurait certainement plus lieu d'être.
Oui, notre regard a changé hein, sur ces agressions sexuelles et sur le traitement qu'on leur donne dans les médias avec notamment le mouvement MeToo. Marine Pradel, concernant DSK, bon, il y a eu le Sofitel, c'est vrai, mais après il y a aussi eu l'affaire du Carlton à Lille. Des soirées où des femmes très jeunes hein, parfois étaient recrutées pour avoir des relations sexuelles avec des hommes puissants, dont DSK. Bon, aujourd'hui en 2026, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Jeffrey Epstein. Ça a permis de comprendre que ce type de comportement de prédation, il était partout.
En 2011, ça a été encore un petit peu long. Hein. On était tellement focalisés sur la personne de Dominique Strauss-Kahn lui-même. Effectivement, le Carlton, ça a un petit peu élargi le scope, parce que d'un coup, ils étaient plusieurs, même si le Carlton était quand même une organisation de personnes qui étaient, disons, comme une organisation de malfaiteurs. Il était le principal bénéficiaire de cette espèce d'association de malfaiteurs. Quoi. C'est-à-dire que tous ces gens se donnaient beaucoup de mal pour lui faire plaisir et organiser ses plaisirs donc à Lille et en Belgique. Donc ça reste toujours très tourné autour de la personne de Dominique Strauss-Kahn. Et en ça, effectivement, il y a beaucoup de similarités avec l'affaire Epstein, qui effectivement est tentaculaire aux États-Unis. C'est difficile parce qu'en plus, c'est une affaire qui a été rejetée comme une histoire de complotiste pendant quand même un certain temps. Et là, on est sur un cas où les complotistes avaient en partie raison. Enfin, c'est terrible, mais de se rendre compte qu'effectivement, au fil des révélations et de la déclassification des dossiers par le département de la justice américain, on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre de thèses conspirationnistes sont confirmées par cette affaire-là. Donc en plus, elles rendent le travail journalistique encore plus difficile, parce que on doit être encore plus rigoureux, puisque on a, par le passé, discrédité certains éléments sur l'affaire Epstein. Donc encore une fois, on a quand même manqué de jugement. Et donc c'est bien la preuve que sur ces affaires-là, il faut vraiment un travail journalistique extrêmement précis et extrêmement rigoureux. Et c'est à ça que servent les départements